Et donc, on a une activité qui se développe beaucoup.
Justement, dans ce point de vue-là, est-ce qu'il y a eu, je dirais, une évolution? Parce que, on va dire que beaucoup d'entreprises ont pu être traitées de manière un peu rapide ces sujets de sécurité. Vous sentez qu'il y a un mouvement de fond là-dessus?
Alors, il y a un mouvement de fond très important, d'abord dans les gouvernements, qui ont conscience qu'avec le Cloud Act et l'extraterritorialité des lois américaines, il est temps de faire attention aux données dont on dispose et de les protéger. Et dans ce cadre-là, notre solution, qui est encore une fois souveraine, qui peut être hébergée chez le client ou dans des clouds souverains dans chaque pays, est tout à fait adaptée pour éviter d'avoir des effets Zoom ou Teams qui sont évidemment susceptibles d'être les données qui résident sur ces serveurs, même si elles sont hébergées en Europe, même pour des clients européens, sont susceptibles d'être fournies à l'administration américaine sans que les possesseurs de ces données soient au courant. Et évidemment, on ne parle pas des Chinois qui font peur à tout le monde pour des raisons bien évidentes.
Alors c'est vrai que ce Cloud Act dont vous parlez il date de 2018, mais on a l'impression qu'il est un peu passé inaperçu pour beaucoup d'entreprises qui, notamment l'année dernière, hein, dans cette période de confinement, ont choisi j'allais dire, les premiers outils. J'ai eu l'occasion d'en parler ici même sur la boursavie.com, les premiers outils disponibles, les Zoom, ils étaient effectivement avec Teams ou d'autres outils, pour aller au plus vite finalement, sans forcément se soucier du sujet sécurité, en tout cas de prime abord.
Oui, alors la deuxième vague a tendance à changer les choses et on a maintenant des appels d'offres qui ont lieu pour des systèmes sécurisés et donc auxquels on répond. Et bien sûr, lorsqu'on parle de mission critique, on a un produit qui s'appelle Team on Mission, qui est donc fait tout ce qui est mission critique. Donc quand on dit mission critique, c'est l'antiterrorisme, c'est la police, c'est les militaires. C'est les services de santé, c'est les pompiers. Donc là, on n'a pas envie de jouer avec la vie des gens. Et dans ces cas-là, les solutions grand public sont rarement adaptées à ce type de besoin. Et c'est vraiment là où on a le plus de succès, puisque notre solution est parfaitement adaptée et permet de répondre aux besoins extrêmement exigeants de ces populations.
Il y a eu effectivement du côté des entreprises aussi le sujet, finalement, quand on regarde ce sujet de cloud, il y a eu les premières étapes où souvent, pour faire simple, elles étaient hébergées à l'étranger. Et il y a des sujets, si on veut rapatrier des données, c'est compliqué. Donc, pour l'entreprise, je dirais, de basculer d'un côté ou de l'autre, c'est pas forcément évident. On peut le comprendre aussi. Comment on peut arriver à les convaincre finalement que c'est un enjeu stratégique, ce que j'ai eu l'occasion de dire ici même, c'est-à-dire qu'il y a un risque stratégique si elles ne font pas attention à ces sujets-là.
Alors, vous savez, c'est l'effet MH370. C'est le nom de l'avion de la Malaysia Airlines qui s'est abîmé dans l'océan Indien. On ne sait d'ailleurs toujours pas ce qui s'est passé. Visiblement, le pilote a dû vouloir faire une action d'éclat. À force de ne pas s'occuper de la sécurité, en l'occurrence pour la Malaysian Airlines, de ne pas avoir surveillé un petit peu mieux ses pilotes, ben, c'est pas très grave, on fait des économies et puis tout va bien jusqu'au jour où il y a un incident. Et sans le soutien très actif du gouvernement malais, la Malaysian Airlines aurait disparu. Donc oui, quand il a fallu faire très vite, toutes les sociétés sont mises à faire du Zoom, du Teams et autres Google. Mais elles ont de plus en plus conscience que une seule erreur peut coûter la vie à l'entreprise ou au moins à son PDG. Donc, de plus en plus, les sociétés sont très sensibles au fait que la sécurité, ça ne permet pas, enfin, il n'y a pas de compromis à faire avec la sécurité.
C'est-à-dire le fait peut-être que nous soyons tous connectés aujourd'hui en permanence. Vous voyez, là, on se parle à distance tous les deux aujourd'hui. Le fait que nous soyons effectivement sur le réseau Internet de manière permanente oblige forcément à faire attention à ce qu'on peut laisser et à utiliser les bons outils.
Bien sûr, donc nous, notre solution est entièrement sécurisée avec un cryptage de niveau militaire pour rassurer tout le monde, bien évidemment. Et là, lorsque vous utilisez Zoom, quelqu'un qui peut intercepter le lien que vous avez envoyé à vos utilisateurs peut se connecter sans problème à la conférence. Il peut même se faire passer pour quelqu'un d'autre. Avec notre système, c'est parfaitement impossible. Et donc, on est capable de vous garantir que les gens qui sont dans une conférence vidéo sont effectivement autorisés à l'être. Et on est capable d'avoir une trace d'audit de qui a autorisé qui et donc de pouvoir vérifier que tout est correct et qu'il n'y a pas de hacker dans cet environnement.
Justement, de ce point de vue-là, il y a certaines entreprises que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui disent « Ah, mais c'est pas grave, puisque là, ce que je fais, c'est une assemblée générale, là, une présentation de résultats. Finalement, ce que je dis à ce moment-là est public, donc pourquoi il n'y a pas de risque de mon point de vue ? Comment vous leur répondrez ?»
Ah, mais on n'est pas du tout sur le marché des gens qui n'en ont rien à faire de la sécurité de leurs données. Non, le marché sur lequel on est, c'est le marché, par exemple, des grandes entreprises qu'on appelle des OIV, organisations d'intérêt vital françaises, qui sont en train de discuter d'un contrat pour lequel ils sont en concurrence avec des Américains sur, je sais pas, une centrale énergie, une centrale nucléaire ou autre, et qui n'ont pas envie que cette information puisse aller chez leurs concurrents, soit parce que ils sont susceptibles d'être hackés, soit parce que le NSA a obtenu des informations sans qu'il le sache et les a communiquées à ses concurrents. Donc oui, on n'accède pas au marché grand public et on n'a pas l'intention d'accéder au marché grand public. Effectivement, tout ce qui est public n'a pas de raison de faire l'objet d'une sécurité des données particulière. J'insiste cependant quand même sur un aspect qui est que vous avez bien compris que le Cloud Act est incompatible avec le RGPD. Donc, Quand vous utilisez des systèmes américains, même s'ils sont hébergés en Europe, vous n'êtes pas compatible avec le RGPD. Et un jour ou l'autre, vos employés ou les gens dont vous avez les données, et notamment des données de santé, vont venir vers vous et vont vous expliquer que finalement, vous n'avez pas respecté l'engagement que vous avez pris quand vous avez récupéré ces données. Donc oui, de plus en plus d'entreprises y sont sensibles.
Le mot de la fin sur les perspectives pour Streamwide dans ce marché que vous avez évoqué, comment se présentent les prochains mois? On est encore en confinement, mais c'est pas, voilà, pour vous, pour l'instant, un sujet. Quelles vont être vos priorités du prochain mois?
Alors, nos priorités, nous avons un très fort écosystème de distributeurs et d'intégrateurs. Pour vous en citer quelques-uns, on peut parler de Thales, de Airbus, de Nokia, de Atonet, qui est une petite société italienne, mais qui a beaucoup de succès, et j'en passe de nombreux autres. Donc, le T-Mobile, US Cellular. Et donc, notre objectif pour les années à venir, c'est vraiment de démultiplier la capacité de ces distributeurs à générer des leads et à signer des affaires en les formant, en faisant en sorte qu'ils comprennent tous à l'intérieur de la société la nature et la différenciation de notre offre pour créer pour Streamwide une croissance exponentielle, et on pense qu'on peut y arriver.
Donc pour vous, effectivement, les prochains mois s'annoncent intenses. Merci beaucoup Pascal Béglin d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Didier.